Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Vous savez, on parle depuis déjà quelques années de l'électrification des transports. Je sais que nos gouvernements mettent beaucoup d'emphase sur les projets électriques. Et on connaîtra aussi Lyon Électrique qui a récemment s'est mis à l'abri de ses créanciers, tout ça, perte d'emploi. Mais nous, au Québec, on a plusieurs personnes qui aussi s'investissent dans un projet de ce qu'on pourrait appeler décarbonation du transport. Et on lui a déjà parlé dans le passé, puis il a des bonnes idées parce que lui amène une autre facette à cette décarbonisation décarbonation du transport. Et principalement, peut-être que nos élus auraient intérêt des fois à penser à un carburant alternatif. Il a déposé un mémoire dernièrement et il est au bout du fil. Richard Prévost de EBI, bienvenue à Truck Stop Québec.
Salut Benoît.
Richard, c'est-tu difficile d'aller un petit peu à contre-courant dans le sens où là, c'est électrique, électrique, électrique. On le sait, on a parlé à des détaillants de camions, à des fabricants de camions qui nous disaient demain matin, si tout le monde était électrique, c'est bien de valeur. On n'a même pas la puissance électrique au Québec pour fournir tout ce beau monde-là. Il y aura plus de courant quelque part. Mais toi, t'amènes un autre pensée avec le mémoire déposé dernièrement. Est-ce que tu as eu de l'écoute à date? Je comprends que c'est recommencé depuis un matin, là, mais est-ce que tu as eu de l'écoute de la part des élus?
Ben, on a eu de l'écoute un peu. Écoute, je vais juste te donner un petit peu, je vais faire un petit résumé du projet.
Oui.
Premièrement, chez EBI Énergie, on est trois, on a fait ça en équipe.
Oui.
Donc, moi, ma collègue Laurie Deveaux et mon patron, Olivier Sylvestre, on a écrit un mémoire de 20 pages qu'on a déposé à l'Assemblée nationale parce que le projet de loi 81 veut éliminer toute notion de moteur thermique. Ça veut dire diesel, ça veut dire gaz naturel et ça veut dire aussi hydrogène à combustion.
Oui.
Donc, le Cummins X15H qui est même pas encore sorti mais qui est en développement. Le ministère de l'Environnement, le projet de loi 81 touche 4 ou 5 volets. Il y en a un de ces volets-là qui touche aux camions lourds. Donc, nous, on a focusé évidemment sur ça. En gros, le projet de loi, ce que ça dit, c'est on veut, comme gouvernement, éliminer tout moteur thermique pour ne laisser que deux solutions.
Oui.
Le camion électrique branchable et le camion électrique à pile à combustible, donc pile à hydrogène, qui est même pas encore sur le marché présentement.
Oui.
Et qu'on entend parler un peu, là, qui est en développement encore. Donc, c'est sûr qu'on est à contre-courant. Puis nous, on n'est pas en train de dire que ces camions-là ont pas leur place. On est en train de dire que ces camions-là ne devraient pas être une solution unique, qu'au Québec, on a une variété des défis de température, de terrain, de région, pour les infrastructures, pour la quantité d'électricité disponible dans certaines régions, pour l'hydrogène où il n'y a pas de réseau encore. Donc, on ne devrait pas forcer les gens. On ne devrait pas avoir un gouvernement qui force les gens à utiliser une technologie. On devrait plutôt avoir un gouvernement qui permet à tout le monde d'utiliser la meilleure solution possible, spécialement quand une solution comme le gaz naturel renouvelable est là. On est présent, on a l'infrastructure, on n'a même pas de subvention pour les infrastructures. C'est le choix qui est le moins violent financièrement pour passer du diesel à quelque chose d'autre. Et ça serait éliminé. Ça fait pas de sens.
Effectivement.
On n'a pas une écoute incroyable de la part du gouvernement. On souhaite un peu ébranler, on souhaite un peu ralentir, enfarger, peu importe comment tu nommes ça, là, mais on considère que aucune option ne devrait être enlevée, que tout le monde devrait avoir sa place dans un marché libre parce qu'on a un contexte trop compliqué au Québec de variation de température et de disponibilité d'énergie. Et il n'y a personne au gouvernement qui devrait se prétendre spécialiste de transport. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté pénible.
Puis t'amènes un bon point, Richard, dans le sens aussi que les distances parcourues avec des camions, c'est pas 20 kilomètres par jour, à moins qu'on fasse juste du local, là. Puis encore, ça va être plus que ça, mais on parcourt de très grandes distances au Québec aussi. Ça, c'est sans compter quand on veut aller vers les États américains, quand on veut aller vers d'autres provinces canadiennes, ben on parcourt de très longues distances aussi, là.
Ben, avec des charges aussi assez incroyables.
Ouais.
Présentement, ce qu'ils veulent faire, ministère de l'Environnement, ministère du Transport, on est d'accord avec tous les projets de décarbonation. Faut réduire les émissions du transport. Ça, c'est sûr que ça fait du sens. Quand, comme société, on veut décarboner.
Ouais.
Mais d'aller forcer les gens à travers un entonnoir et se baser sur une réglementation américaine qui part du principe que il y a beaucoup plus d'infrastructures là-bas et que les poids sont limités à 80 ou 82 000 livres de masse totale en charge. Oui. Parce qu'ils ont une déréglementation, une dérogation de 2 000 livres. On peut pas adapter ça ici à quelqu'un qui fait du bitrain 5 essieux ou qui fait du 4 essieux, qui fait de la Côte-Nord, qui fait de la BTB. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas reprendre la recette d'un pays aussi différent que le nôtre.
Puis aussi juste le fait que il y ait moins d'ouverture, qu'on ait juste pensé électrique, 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 qu'on nous martèle souvent ce message-là. Oui, on est tous d'accord qu'il faut avoir moins de pollution, moins de CO2, moins. Mais c'est parce que, puis on s'en est parlé dans le passé, est-ce qu'on a pensé à des gens ou des technologies comme vous pourriez offrir qui sont aussi très neutres, là, qui ont à peine, puis même pas, là, tu sais, de résidus qu'on relâche. Moi, je pense que on a oublié au niveau du gouvernement de s'asseoir avec des entreprises comme EBI Énergie et de dire comment est-ce qu'on peut dealer quelque chose pour le futur et que ça soit le plus carboneutre possible.
Ben, c'est un mouvement politique qui est pas tant réaliste. C'est vraiment comme une mode, c'est sexy. Pour certains, le gaz est une mauvaise chose, mais ce qu'on oublie, c'est que faire de l'énergie avec des déchets, c'est une maudite bonne idée.
Effectivement.
On oublie toute la notion de, parce que présentement, tout est basé sur le zéro émission. Fait que toutes les ambitions politiques sont basées sur le fait que on va faire le plus de phrases possible avec la notion de zéro émission.
Oui.
Et la notion de zéro émission, c'est limité au camion lui-même.
Oui.
Quand le camion dépense son énergie sans aucune considération pour toute la production. Fait que, si je prends un exemple, là, mettons, là, tu te fais livrer par cargo 345 000 batteries.
Oui.
Que tes batteries viennent de Chine, que ça parcourt 8400 km dans un cargo avec deux moteurs 60 litres qui roule au mazout, et que ces batteries-là arrivent ici,
oui.
Que là, ça prend un camion diesel pour les amener à l'usine d'assemblage, puis que là, tu bâtis un camion électrique, puis tu essaies de me faire croire que ton camion est zéro émission.
Ben non.
Excuse-moi, là, mais ça fait pas de sens. Fait qu'il faut considérer tout le cycle complet de l'énergie à partir de sa production, comment tu as acheminé cette énergie-là à ton camion, et dans ce contexte-là, le gaz naturel renouvelable, qui part du principe que tu fais de l'énergie avec des déchets ou des matières résiduels organiques qui vont se décomposer et qui vont émettre des GES et qui sont dans ta cour.
Oui.
Ça veut dire que tous les résidus agricoles, tu dois avoir une épicerie pas loin de chez vous, Benoît?
À peu près à 500 mètres.
Bon, ben à 500 mètres, là, chaque jour, tu as un département de boucherie, tu as la poissonnerie,
oui,
qui vont remplir des bacs,
oui,
qui vont envoyer, ils vont payer quelqu'un pour venir ramasser tous les déchets de bouffe, de fruits et légumes pourris, pas bons,
oui,
peu importe. Ça, là, c'est une masse incroyable. Si tu as un moulin assis, toute l'écorce qui est la biomasse, si tu es un fermier, t'as du fumier, tu as tous les restants de champs que tu as rasés après que ta récolte est finie. Tout ça, là, c'est de l'énergie qui dort.
Oui, oui.
Et si tu l'utilises pas, je pense même pas je parle même pas des résidus de produits laitiers. Ça, là, c'est ici, c'est local.
Oui.
On doit utiliser ça. Et si tu t'en sers pas, ça va émettre des GES.
Oui.
Fait qu'on peut péter une coche tant qu'on veut contre le gaz naturel. La planète va quand même biométhaniser toute la cochonnerie organique que tu n'auras pas utilisée. Prenons-la.
Puis je me trompe.
C'est ici.
Je me trompe, Richard, ou j'ai déjà entendu, c'était-tu dans le Grand Nord ou enfoui dans de la glace? Ça a l'air qu'il y en a du biométhane là, depuis nombreuses années, pour pas dire des siècles et des siècles, là, mais qu'on a là aussi. Là, tu sais, c'est un cycle quasi normal. Ben, c'est impossible de ne pas faire de résidus, de poubelles et tout ça. Là, tu sais, on va toujours en faire de ça, là.
Il va toujours en avoir, et tu as raison de dire que c'est là, mais c'est là partout dans le monde, Benoît, parce que la planète va automatiquement digérer et transformer en gaz tout ce qui était vivant, végétal, ouais, animal, humain. Et tu sais, à la limite, là, je vais exagérer, mais un cimetière, c'est un biométhaniseur.
Effectivement.
Tout ce qui est déjà tombé à terre et qui était vivant ou qui a poussé, c'est ce truc-là, si tu le laisses là, va finir par être absorbé et va devenir du méthane. Et ce méthane-là, si tu t'en sers pas, il est là.
Oui.
Si tu le sors de la terre, en fait, ce qui est polluant du gaz, c'est la production, c'est le forage, oui, c'est la stacturation. C'est quand tu le sors du sol,
oui,
d'une façon rentable, mais pas chic, où il va y avoir des pertes, du gaspillage,
oui,
il va y avoir beaucoup de machinerie. Ça, c'est à éviter. Mais quand tu as des matières qui sont déjà là dans tes mains, qui vont finir dans un site d'enfouissement ou qui vont juste être laissées à l'abandon dans le fond d'un champ, ça fait pas de sens comme société, même si on vendait pas chez EBI Énergie. Mettons qu'on vend pas de gaz.
Oui.
Mettons que moi, là, je suis un chimiste, je travaille dans un labo, je considérerais quand même que le gaz naturel renouvelable au Québec est une filière qu'on n'utilise pas assez, qu'on n'aborde pas assez, parce qu'on considère que le gaz est méchant. Excuse-moi, mais ces déchets-là, si tu t'en occupes pas, ils sont là pareil, puis ils vont quand même pourrir, ils vont se décomposer et ils vont émettre directement à l'atmosphère. Et
oui,
ça, c'est bien plus polluant que ce qu'un camion peut émettre.
Le méthane,
techniquement,
le méthane, ouais, réchauffe aussi, hein, sert d'écran pour réchauffer. En fait, si on gagne un degré à un moment donné sur plusieurs dizaines d'années, peut-être que le méthane pourrait être une cause probable. Mais si on le transforme avant de l'envoyer dans l'atmosphère, ben on vient d'utiliser une énergie. On vient probablement de réduire, parce qu'une fois qu'on l'a utilisé d'un moteur, ben on vient probablement d'en réduire aussi un peu les impacts sur la pollution, là.
Ben, le méthane est un ennemi en soi, parce que le méthane qui est émis à l'atmosphère,
oui,
sans être brûlé, est un polluant grave.
Okay.
Donc, si on part du principe que la planète est un biométhaniseur et que tout ce qui se décompose, qui a déjà été animal, humain ou peu importe, organique, ouais, va produire du méthane, notre but d'envie devrait pas être d'éliminer la consommation de gaz. Ça devrait être la captation du gaz. Et les gaz à effet de serre à la base, là,
ouais,
si tu fouilles un peu, si tu fais un Wikipédia ce matin, là,
ouais,
tu vas voir que les gaz à effet de serre sont nécessaires pour conserver une température gérable dans l'atmosphère.
Okay.
Ce qui est grave présentement, c'est qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre-là, qui à la base sont là pour protéger la vie sur Terre, ben si tu augmentes ça, ça veut dire que tu viens faire un écran, tu viens créer un écran plus opaque et plus perméable, et cet écran-là va garder plus de chaleur de la planète et va réchauffer. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il faut pas enlever la consommation de gaz naturel. Faut éviter les émissions de gaz qui seront pas brûlées. Parce que si tu le brûles, ce gaz-là, il est probablement, je dis n'importe quoi, là, mais peut-être 25 fois moins émissif que, okay, si tu le laisses juste s'évaporer.
S'évaporer dans l'atmosphère.
C'est ça. Fait qu'on est entouré de GES qui sont toujours en train de, tu sais, mettons, tu vas juste, ta fille, elle a un poisson rouge, le poisson rouge décède, tu l'enterres dans la cour, c'est bien cute, c'est un drame pour une journée, puis après ça, on l'oublie, mais ce poisson-là va devenir du gaz. Hein.
Oui. Oh oui. Puis dans le
absolument
sol.
Tout, là.
Dans le sol au Québec, je pense qu'on en a beaucoup de tout ce qui pourrait être gaz. Je comprends qu'on a peut-être un petit peu de misère, ça va peut-être à l'encontre. C'est peut-être pour ça, des fois, que les gouvernements écoutent moins des spécialistes comme toi, dans le sens où on se dit, ah ben, s'il fallait creuser, on n'aurait plus la faveur populaire. Puis trop souvent, je pense que des fois, on gère par sondage. Ça veut dire que c'est pas favorable pour la population. Attendons un peu. Peut-être que dans 5-6 ans, on trouvera le moyen. Mais qu'est-ce que t'en dis que 2035, tout le monde va être à batterie, puis ça va fonctionner de même? Moi, j'ai bien de la misère à penser que ça va arriver, puisque... Bon, on n'a pas de barrage, on n'a pas rien. Puis construire un barrage, pas en 2 ans qu'on fait ça. Même si on réussirait, faut emmener des lignes électriques pour transporter ce courant-là du point A au point B. Faut mettre des zones là dans des municipalités avec des transfos et tout ça. Va te dire, va falloir être bien avant-gardiste si on veut arriver à 2035, tout le monde en même temps. Là. Tandis que toi, tu arrives avec une proposition de carburant alternatif qui pourrait sauver la donne, puis que tout le monde pourrait être en tout cas satisfait d'avoir une propulsion et pas de faire je sais pas 200-300 kilomètres puis être obligé de recharger pendant une demi-heure là. Tu sais, c'est pas convaincant pour une compagnie de transport d'acheter des véhicules de même là.
Ben là, t'as abordé deux sujets. Le premier, oui, c'est sûr qu'on a du gaz dans le sol au Québec. Je dis pas que c'est une bonne idée de le forer. Moi, je te dis que c'est une bonne idée d'intercepter tous les déchets organiques qu'on aurait normalement enfouis ou laissés pourrir. Donc, sans creuser, là, juste de récupérer ce qui nous passe entre les mains et qui vont émettre s'ils sont abandonnés dans le fond du champ. C'est ça le but premier. L'autre idée, on pense que l'électrification, l'hydrogène, même le biodiesel, toutes ces énergies-là ont leur place. Le problème, c'est que on peut pas penser qu'il y a une énergie unique et magique et licornique. Faut arrêter de se pelleter un nuage puis de penser que il y a une seule solution dans la vie. C'est pas vrai. Puis t'as raison. En 2035, j'en ai une voiture électrique. Puis pour moi, c'est correct. Mais de penser que tu vas tout électrifier, on n'a pas assez d'énergie. Puis tu peux pas penser que ça va être viable parce que présentement, c'est un type de transport qui est très contraignant pour un transporteur en poids, en masse totale en charge, en demande d'énergie, en autonomie, en variation de température, puis même juste en coût, là, parce que si tu prends ce que ça prend, si tu considères ce que ça prend en lithium puis en cuivre de construire un camion électrique, ben là, tu viens de créer un monstre, un autre marché qui va siphonner des ressources naturelles de la planète. Fait que, tu sais, nous autres, on prend, ce qu'on a écrit dans le mémoire, c'est: enlevez pas personne du projet, laissez place à la complémentarité des énergies. Dans le gaz, là, nous autres, si tu nous demandes de faire du local, de l'urbain, là, le last mile, on n'est pas bon là-dedans. C'est pas une bonne idée. Il n'y a pas des stations partout et ça reste un moteur thermique. Fait qu'on pense que chaque énergie a sa place, mais l'idée, c'est qu'on veut pas d'un gouvernement qui force les gens à utiliser une seule option parce que ça nourrit des ambitions politiques. C'est n'importe quoi.
Ouais, effectivement. Dans le projet déposé, je sais que vous parlez d'une comparaison monétaire entre un camion zéro émission versus un camion à gaz naturel comprimé. 300 000 $ pour le camion à batterie et 600 000 $ de plus pour la pile à hydrogène. Parce que le camion n'existe pas encore, là. C'est une estimation.
En fait, ce qu'on a fait, c'est un tableau. Ce qu'on propose au ministère de l'Environnement, puis par la bande au ministère du Transport pour un peu nettoyer le programme éco-camionnage, remettre ça en vie, mais avec des bonnes bases. Ce qu'on dit, c'est au lieu de forcer une technologie qui présentement coûte beaucoup plus cher et qui va avoir un impact économique sur les biens de consommation, vous devriez plutôt valoriser, vous devriez mettre en place une subvention qui donne un incitatif basé sur les tonnes de GES évitées. Oui. Donc, on a fait un tableau qui compare le camion diesel, un camion qui serait alimenté au gaz naturel comprimé fossile, du traditionnel, du gaz naturel 100% renouvelable, le camion à batterie branchable et le camion hydrogène pile à combustible. Donc, ces 5 colonnes-là, on a descendu ça avec le coût initial du camion. C'est quoi le surcoût qu'on comparait au diesel? C'était quoi la subvention éco-camionnage et la subvention fédérale? C'est quoi le surcoût assumé par le transporteur? Mais surtout, c'est quoi le coût par tonne de GES qui est épongé par la société à travers ces subventions-là? Et dans ça, c'est clair que le camion gaz naturel renouvelable est le champion parce que c'est un camion qui coûte entre 100 et 120 000 de plus que le camion diesel. Et si tu utilises certains types de résidus organiques, tu peux aller même à la carbonégativité. Tu sais, le but, c'est pas zéro, là. Si tu as évité plus de GES que les GES que ton camion a consommé, ça veut dire que ton camion, il est pas carboneutre, il est carbonégatif.
Oui.
Tu sais, le but, c'est pas de zéro, le but, c'est d'en économiser le plus possible. Donc, tu as une solution présentement qui pourrait même rouler, je dis pas que c'est une bonne idée, là, mais présentement, tu pourrais enlever toutes les subventions d'un camion au GNR, puis ce camion-là serait quand même le moins violent financièrement sur la société pour le coût de ton épicerie, de ton auto, de tes meubles, de tes vêtements, parce que tout ce que tu portes, que tu manges, puis ce que tu touches a été transporté par un camion.
C'est clair, c'est clair.
Donc, présentement, on enlèverait du marché la solution qui est la plus financièrement viable. C'est n'importe quoi, là.
Oui. Puis je me trompe, il y a plus, il n'existe plus le programme éco-camionnage hein, dans le transport parce que les fonds sont épuisés. Puis en fait, on n'a pas renégocié une entente pour ramener des fonds là-dedans.
Ben, on n'est pas connecté directement avec le MTQ, mais ce qu'on entend, c'est que oui, ils ont atteint le fond des fonds, si on veut. Donc, c'est sûr que là, il y a beaucoup de véhicules qui ont été inclus dans le programme, véhicules qui sont pas tous nécessairement du camion lourd, parce qu'il s'est vendu du camion léger, moyen. Mettons, tout ce qui est en haut de 4500 kilos, ça couvre assez large. Donc, il y en a qui en ont profité avec des véhicules plus petits. Puis c'est correct, c'est cute. Mais ces camions-là sont venus siphonner le fond. Et là, présentement, ils sont en réorganisation. On s'attend à une nouvelle version d'éco-camionnage le 1er avril 2025. Donc, on s'attend à quoi? J'ai aucune idée. Et surtout, il faut que le NTQ et le ministère de l'Environnement définissent aujourd'hui c'est quoi, en 2025, la définition claire d'un camion zéro émission. Parce que présentement, on se fie juste sur des camions où on calcule, on appelait ça « tank to wheel » ou à la consommation d'énergie du réservoir à la roue. Fait que ça veut dire que ça exclut tout ce qui aurait été alimenté à partir de résidus organiques qui se sont décomposés.
Oui.
Et ça fait pas de sens. Mais éco-camionnage pourrait renaître, devrait renaître à partir du 1er avril, mais ça, il y a juste le MTQ qui peut, le ministère du Transport qui peut nous le confirmer.
Oui. Puis quand on parle, du biométhane, est-ce que lui, on aurait en quantité suffisante pour fournir en masse de véhicules lourds, peut-être quotidiens, peut-être hebdomadaires, mais est-ce que c'est un gaz qu'on pourrait obtenir en grande quantité?
Ben, la réponse est oui. Premièrement, on n'a pas la prétention d'alimenter tous les camions de l'industrie parce qu'on s'entend que on n'a pas de stations partout en gaz naturel comprimé. En Amérique du Nord, on a 770 stations présentement.
Oui.
Je parle du marché là, parce que BI Energy, on a 5 stations publiques sur ça. On reste quand même la référence au Québec, mais au Québec, à partir de la semaine prochaine, avec la nouvelle station de Filgo à Saint-Germain-de-Grand-Am sur l'autoroute 20, ça va être la 10e station dans la province. Donc, il pourrait avoir une grosse partie du transport lourd, du line-haul et des camions avec les remorques 3 essieux, 4 essieux, 5 essieux, bitrain et compagnie qui pourraient être alimentés au GNCR. Donc oui, on pourrait alimenter énormément de camions. La question que tu devrais poser, c'est pas est-ce qu'on a assez de gaz au Québec, c'est est-ce qu'il y a assez d'investissement pour produire du gaz, parce que de la matière qui va devenir du biométhane ou du gaz naturel renouvelable, il y en a, là.
Ça, on en a.
C'est juste que, moi, j'ai aucun doute sur ça, sur la quantité de produits qu'on peut utiliser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de production parce que tout est porté vers l'électricité parce que les ambitions politiques mènent à ça. Mais dans les faits, d'après toi, on va-tu manquer d'usines de traitement des eaux? On va-tu manquer de fumier au Québec? On va-tu manquer de restants de bouffe? On va-tu manquer de sites d'enfouissement? On peut pas manquer de ça. L'humain est la machine qui produit le plus de déchets de tout l'univers.
Oui, effectivement.
Sincèrement, on peut pas en manquer, là.
Le biométhane qui est présent dans les sites d'enfouissement d'ordures normales, est-ce que ça, on en produit chez EBI actuellement?
Ben, en fait, ça, c'est un autre dossier parce que EBI, c'est une entreprise de 4900 employés qui est installée dans trois pays.
Oui.
Et oui, on a des opérations de captation du méthane de nos sites d'enfouissement. Par contre, EBI Énergie n'utilise pas ce gaz-là. Ce gaz-là est voué à un autre marché. Donc, nous, on est alimenté par le réseau gazier du Québec.
Okay.
Nous, on utilise du gaz qui provient de chez Énergie.
Okay.
Donc, que ce soit en traditionnel ou en renouvelable, ou un mix entre les deux. Fait que c'est oui, nous et d'autres sites d'enfouissement, on capte le méthane.
Oui.
Premièrement, pour ne pas qu'il soit émis à l'atmosphère, ce qui est une bonne idée en soi.
Oui.
Puis deuxièmement, parce que c'est une énergie qui vaut quelque chose et qui peut être utilisée. Donc, ce gaz-là qui est capté est injecté dans le réseau gazier.
OK. Fait que dans le fond, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable et d'en fournir un peu. Mais est-ce que tous les sites d'enfouissement, qu'on parle de BI ou d'autres entreprises qui font la collecte d'ordures, est-ce que on a la même idée positive que de dire on va récolter, on va ramasser le méthane qui est enfoui dans le sol? Est-ce qu'ils ont toutes les mêmes idées que BI dans le fond?
Je pense pas que tout le monde a cette vision-là.
Okay.
Sincèrement, nous autres, on est dans l'alimentation des camions lourds, mais le côté production par le site d'enfouissement, c'est pas ça mon cheval de bataille et c'est pas un domaine que je connais tant que ça.
Okay.
Parce que nous, on achète du GNR comme tu achèterais ton électricité ou ton propane. Fait que tu sais, moi, je suis plus dans le développement de c'est qui devrait acheter ce camion-là. C'est quoi l'info, l'éducation qu'on devrait envoyer au concessionnaire, éduquer le ministère de l'Environnement et du Transport. Mais sincèrement, le marché de la production, je le connais pas tant que ça.
Okay.
Donc, je peux pas répondre clairement à cette question-là. Si tu me demandes est-ce que c'est une bonne idée, c'est clair. Est-ce que tout le monde le fait? J'aimerais le croire. Est-ce que tout le monde le fait vraiment? Je le sais pas. Mais ça reste que pour la société, tout ce qui est site qui produit du biométhane devrait, tant qu'à moi, récupérer ça le plus possible.
Oui, effectivement.
Puis même si c'est pas pour être vendu en énergie, juste pour pas que ça soit émis à l'atmosphère, à la base, c'est une bonne idée.
Oui. C'est quoi l'appétit, Richard, des entreprises, parce que tu côtoies beaucoup d'entreprises de camionnage, mais c'est quoi leur appétit quand tu arrives avec une solution comme gaz naturel compressé ou tout ça? C'est quoi la réaction de ces gestionnaires-là quand tu leur parles de ton carburant qui est alternatif, qui peut se retrouver quand même à plusieurs endroits versus une charge électrique où j'ai pas vu Grand Truck Stop offrir 25-30 bornes électriques, là, quoi qu'un jour, peut-être, ça arrivera. Mais est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit de la part des entreprises du Québec en camionnage pour ce type de carburant-là?
Il y a une ouverture, c'est clair, spécialement depuis que Cummins ont commencé la production de leur nouveau 15 litres.
Oui.
Le Cummins X15N, la production a commencé l'automne dernier. Donc là, tranquillement, en 2025, on va voir ce moteur-là atterrir chez les concessionnaires Peterbilt, Kenworth et bientôt Freightliner.
Oui.
Donc, ce moteur-là est un produit très, très intéressant parce que c'est le moteur qui permet une transition sans chambouler les opérations du transporteur, sans trop chambouler les opérations du transporteur. Donc, ils ont un intérêt. Par contre, ils ont aussi une inquiétude parce que là, ils voient que la réglementation de l'EPA et de CARB aux États-Unis. Et maintenant, avec la loi 81, avec le projet de loi, ils voient que les instances gouvernementales sont peut-être pas conscientes de cette énergie-là et du pouvoir du gaz. Donc, ils se demandent, OK, mais si j'investis dans ça, si je mets une station dans ma cour, si je convertis 50 de mes camions, est-ce que je vais me ramasser avec une technologie qui va se faire éjecter?
Oui.
Donc, il y a aussi un gas break, tu sais. Je pense que c'est une bonne idée, mais je suis pas trop sûr où on s'en va. Et il y en a qui se disent, si le gaz naturel comprimé est une si bonne idée, pourquoi on l'a pas su avant? Puis ça, il y a 22 réponses à ça. C'est une énergie qui existe depuis, on va dire ici, les années 80. où on a entendu parler de transporteurs par autobus qui ont utilisé ça 80-90, mais dans le camion lourd, je vais dire 2012-2013, fait que c'est quelque chose qui est encore assez récent et qui a eu ses limites, parce qu'avant, c'était juste un moteur 12 litres. Avant, ben c'était transmission manuelle ou transmission automatisée, dans le genre ultra shift. Donc, c'était des technologies qui étaient pas nécessairement faites pour combler tous les besoins, ou des moteurs qui ne parlaient pas nécessairement le même langage que les transmissions, avec des chauffeurs qui n'ont pas nécessairement été gâtés, avec peu de stations. Fait qu'on vient d'un monde où ça n'a pas été rendu sexy facilement.
Oui.
Et là, on arrive dans une période où les moteurs, les transmissions, et les chauffeurs et les opérations, tout ça va faire un tout beaucoup plus cohérent. Mais on part quand même de loin, et tous les investissements, tout ce que tu entends là à TVA, puis dans la presse, puis à Radio-Canada, puis là, le zéro émission, les gens ne se questionnent même plus sur c'est quoi le zéro émission, c'est quoi l'hydrogène, c'est quoi le camion électrique, c'est quoi l'impact sur le coût de mon épicerie ou de mon auto ou de mon sofa ou de ma télé. On est comme endormi un peu.
Ben, le marketing tourne autour de l'électricité, ou presque, là. Tu sais, on s'ouvre pas ailleurs. Électricité. Probablement que, tu sais, une bonne équipe marketing derrière le pouvoir électrique au Québec, là.
Ben, une bonne équipe, c'est une équipe de feu, là.
Oui.
Ça veut dire, c'est tout ce qui est projet électrique a des moyens à plus finir. Ça, c'est grave.
Oui.
Mais dans les faits, on n'est pas contre l'électricité. On est contre le fait que ça soit vu comme une solution unique. À la base, là, un moteur électrique, c'est une bonne idée. Mais c'est la façon que tu utilises. C'est l'énergie que ça prend et les ressources matérielles qui ont été utilisées pour produire l'électricité qui peut être un problème.
Oui.
S'il y a eu 28 étapes avant que ton camion consomme ton énergie.
Oui.
C'est grave, là. Tu peux pas juste prendre la 28e étape et dire, j'ai un camion zéro émission, je vais aller pitcher de la boucane à la TV. Non, excuse-moi, mais moi, je veux juste qu'on soit dans un monde réaliste. Il y a de la place pour l'électricité, il y a de la place pour l'hydrogène, il y a de la place pour le biodiesel, mais il y a surtout de la place pour le gaz naturel renouvelable. Donc, notre mémoire dit pas enlever ces solutions-là. Ce que ça dit, c'est ne nous éjectez pas du portrait, parce que on est une solution viable et rentable. Donc, on a une place là, puis pour certains transporteurs, ils pourront pas s'électrifier, puis ils pourront pas aller à l'hydrogène, parce que dans leur région, ou dans leur marché, ou avec le poids qu'ils ont attiré, ou avec les concessionnaires qui sont pas prêts à ça, même les fabricants de camions sont pas prêts à ça.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire, présentement, là, on n'a pas vu une augmentation en 2024 de la production de camions électriques.
Hein. Puis l'autonomie est pas encore là, tant qu'à moi, parce que quand on parcourt des longues distances, on a un logbook électronique, ça nous gère notre temps. Donc, on veut pas perdre tout le temps une demi-heure par 4 heures ou par 3 heures ou par 5 heures. Puis éventuellement, je comprends qu'on améliore ça, mais on n'est pas là aujourd'hui. Puis moi, je me mets dans la peau d'un gestionnaire qui t'écoute aujourd'hui et qui se dit, ouais, mais là, au moins, j'ai quelque chose, là, tu sais, puis je suis capable de rouler, je suis capable de faire virer mon véhicule, puis mes chauffeurs attendent pas des heures à des bornes, là, tu sais. Ça se remplit en combien de temps, un camion, disons, au gaz naturel, Richard?
Ben, si tu es dans une station publique qui se tient, une vraie station publique, tu vas te remplir en 10 minutes, mettons 8 à 12 minutes.
Okay.
C'est le même temps que remplir un camion diesel, mais en plus simple, parce que tu branches ça, puis tu laisses aller ça, et c'est la station qui va te gérer.
Ouais.
Mais je reviens à ton point de l'autonomie. Il y en a pour qui cette autonomie-là sera pas un défi. Si tu travailles pour, mettons, tu transportes de l'épicerie, et qu'aujourd'hui, tu vas faire 12-15 livraisons dans des ruelles à Montréal, ou que tu restes dans un rayon de 50 km, il y en a beaucoup de camions au Québec qui roulent pas énormément, là, qui font 40 000 km par année.
Oui.
Donc, pour eux autres, c'est correct, puis ils travaillent pas de nuit, donc ils peuvent se recharger à leur terminal en électrique sans problème.
Oui.
Et le jour, ça veut dire que dans les quartiers résidentiels où il y a un dépanneur, une pharmacie, une épicerie, si tu électrifies, mettons, je dis n'importe quoi, là, tous les camions de bière qui livrent à Montréal.
Oui.
Ben ça, c'est une bonne idée, parce qu'eux autres sont dans tous les quartiers, partout.
Ils font pas de millage, là.
Ils font pas de millage, et ils sont souvent arrêtés, et ils sont dans des quartiers résidentiels autour des écoles, donc ça fait pas de bruit. Ça, c'est de la magie. Tu veux pas faire ça en gaz. Tu veux pas le faire en GNC. Là.
Oui.
Tu veux pas convertir un camion de bière. C'est un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ce qui est livraison de bouffe à proximité des quartiers résidentiels, ça fait pas de sens de faire ça en GNC. Puis à la limite, ça fait pas de sens de le faire en diesel non plus. Donc, il y a un marché pour l'électricité, puis c'est pas tout le monde qui veut l'autonomie.
Oui.
Mais si ton camion fait un switch à Kingston chaque soir, excuse-moi, mais si tu fais ça en électrique, ça va te prendre une semaine et demie. Là.
En terminant, Richard, est-ce que tu penses que le mémoire déposé fera en sorte qu'il y ait une écoute ou du moins peut-être un genre de formation pour que nos décideurs politiques disent « Oh, on y avait peut-être moins pensé à celle-là, ça serait peut-être une bonne alternative. » Est-ce que tu crois qu'on risque d'entendre vos demandes?
Ben, faut pas... on pense que oui, mais nous, on n'est pas unique là-dedans. Là. T'sais, on est une des initiatives parce qu'on a parlé à plusieurs intervenants qui vont être entendus à partir de demain. Parce que les consultations publiques à l'Assemblée nationale, c'est du 28 janvier au 4 février.
Okay.
On a demandé à être entendu et à présenter notre mémoire, mais toutes les places étaient déjà bookées et c'était majoritairement sur invitation. Clairement qu'on n'a pas été invité parce que le gaz est pas sexy tant que ça dans la vie. Mais il y a des joueurs là-bas à qui on a déjà parlé, qui ont aussi déposé un mémoire. Je pense à l'Association du camionnage, entre autres. Je pense au CETEC. Ces gens-là vont ont non seulement déposé un mémoire, mais vont aller défendre leurs arguments en consultation publique devant les parlementaires. Donc, on sait que le message va arriver de plusieurs directions. Puis l'idée à tout le monde, c'est de dire, tu vas avoir un coffre à outils. Ben, dans un coffre à outils, outils un S, donc tu peux pas avoir juste un seul outil. Garde tout le monde. Puis fais juste t'éduquer et prendre conscience que chaque énergie a sa place dans le bon contexte. Fait qu'on sera pas les seuls. On espère sincèrement que ça va influencer, qu'on va avoir des opportunités d'aller éduquer ces gens-là, parce que présentement, tu peux pas juste bâtir un projet de loi en te fiant à ton écran. Puis si tu vas pas sur le terrain parler au vrai transport, la réalité d'un lundi matin. Je veux dire, c'est totalement irréaliste.
Oui, effectivement. Richard Prévost, qui est vente et formation pour EBI Énergie, merci beaucoup. Je pense qu'on va se reparler plus souvent cette saison-ci, voir comment est-ce que le dossier peut avancer. Puis, souhaitons qu'il y ait de l'écoute quelque part pour proposer quelque chose d'alternatif pour nos entreprises de camionnage qui souhaitent être plus verts et qui souhaitent envoyer moins d'émissions dans l'atmosphère et puis qui gagnent à peut-être s'en aller vers des carburants alternatifs comme le vôtre.
Écoute, nous autres, on est là pour, si vous avez des questions, tu nous appelles, Benoît, puis ça va nous faire plaisir. Puis on suit le dossier. On vous tient au courant.
Merci, Richard.